Bien, eh bien, je vous salue. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver et finir la semaine de travail pour la plupart d'entre nous ensemble autour d'un beau sujet qu'on va voir ensemble ce soir. Il y a une grosse réverbe, non? J'ai l'impression d'être. Non, c'est normal? Vous m'entendez normal? Ok, parce que moi j'ai l'impression d'être à Saint-Joseph là-bas, de m'être trompé de pupitre. Non, c'est bon, ok, nickel. Voilà, donc nous allons avoir une étude biblique. Il était difficile de trouver un titre qui soit attrayant parce que parler du culte, finalement, le culte, c'est quelque chose de commun, c'est banal. Et c'était difficile pour moi d'essayer de trouver un titre qui soit attrayant et surtout qui rende honneur au contenu merveilleux que nous allons voir, je le crois, ensemble ce soir. Parce que la Bible nous dit que le culte est quelque chose de merveilleux et le but pour nous est de le redécouvrir pour mieux le vivre. En profiter plus pleinement et le vivre de la manière dont Dieu veut qu'on le vive pour à la fois nous en être plus au bénéfice et en même temps, bien sûr, glorifier plus Dieu au travers de nos cultes. Le culte est un des éléments centraux qui structure la vie d'une église locale et donc c'est intéressant pour nous de pouvoir prendre du recul et de se mettre en observateur de notre propre pratique du culte. Mais aussi en observateur des Écritures, en essayant de regarder là où est-ce que nous sommes au clair et là où sont nos angles morts et qu'est-ce que la Bible a à apporter à cela. Mais avant d'aller plus en avant, je vous propose de prier pour remettre cette soirée entre les mains de Dieu. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses, de l'univers, des galaxies, de notre système solaire, de notre planète. Tu es le créateur de l'humanité, de toute vie. Et tu es aussi le rédempteur, celui qui se rachète un peuple pour qu'il soit ses adorateurs. Merci parce que tu nous as créés pour avoir cette communion merveilleuse avec toi. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que si nous sommes ensemble ce soir à pouvoir sonder les Écritures, à pouvoir parler de ce qu'est l'adoration, c'est parce que c'est toi avant tout qui es venu à nous. C'est toi qui t'es réconcilié avec nous en Jésus-Christ. C'est toi qui nous as créés en tant que peuple, en tant qu'Église. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et je te prie pour que tu conduises nos esprits, nos pensées, notre cœur, nos affections, Seigneur, vraiment vers toi. Que tu nous inclines, Seigneur, dans la soumission à ta parole et que tu nous conduises pour que nous la laissions nous façonner, nous renouveler, que ton esprit nous assiste pour que nous ayons une vision de ce culte renouvelé par l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien, alors comme d'hab, hein, je parle et vous m'interrompez, vous posez des questions s'il y a besoin, s'il y a une réponse plus tard. Qui viendra, je vous le dirai, et on peut faire un break un petit peu entre chaque question que nous allons aborder. Simplement, avant de poser une question pour le bien de l'enregistrement, il y aura un micro qui tournera, donc attendez de pouvoir prendre le micro. Ok, on y va? Alors, c'est parti. Alors, première chose, c'est que je vais commencer avec les trois mots les plus compliqués que nous aurons ce soir ensemble, parce que nous sommes encore frais, mais qui vont nous aider à comprendre là où nous nous situons quand nous faisons ce travail théologique et qui est valable pour tout travail théologique que nous faisons. Voici. En théologie, il y a trois domaines principaux qui se résument par trois gros mots. Et vous savez, comme tous les gros mots, comme tout jargon, finalement, avoir un mot technique permet de s'économiser une page ou 10 minutes d'explication. Un mot technique est une définition en lui-même qui explique un concept. Trois mots sont importants pour nous. C'est à chaque fois, il y a la même racine, c'est ortho, donc c'est droit, hein, vous vous souvenez des repères orthonormés qu'on avait, les axes abscisses ordonnées, tout ça au collège? Non, vous vous souvenez pas, c'est déjà trop loin, vous êtes perdu. Voilà, donc ortho, c'est droit, et donc il y a trois domaines. Il y a l'orthodoxie, c'est de croire juste, c'est la saine doctrine, le contenu doctrinal des Écritures. Il y a un autre domaine qui est très important pour la vie chrétienne, c'est l'orthopraxie, c'est en gros se comporter, agir de façon juste, droite, conforme à la parole de Dieu. Là, ça va être, par exemple, la façon de vivre l'Église va correspondre à une orthopraxie. C'est tout ce qu'on appelle la théologie pratique qui se retrouve dans ce domaine-là. Et puis, il y a un domaine très important qui, parfois, est sous-évalué ou surévalué, selon d'où on se positionne, c'est l'orthopathie, c'est l'attitude, les affections, les émotions, les sentiments qui sont justes. Et ces trois disques se regroupent et en leur centre, eh bien, il y a la vie chrétienne telle que nous devons la mener. Nous devons croire juste, mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi avoir un comportement. Ce que nous croyons doit avoir un impact sur notre façon de vivre. Et tout cela, s'il n'y a pas les bonnes affections, les bons sentiments, s'il n'y a pas l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, c'est vide. Aucun de ces trois cercles ne se suffit en lui-même et les trois sont interdépendants et se nourrissent mutuellement. Et vous allez voir que c'est très important quand on réfléchit à ce qu'est le culte, d'avoir ces trois points de repère. Croire juste, pratiquer le culte de façon juste, droite, et le vivre, le ressentir d'une façon qui est juste. Et les Écritures recouvrent ces trois choses. Selon les traditions chrétiennes, quand je parle des traditions chrétiennes, je parle des grands courants historiques du christianisme, eh bien, l'accent est mis plus ou moins à certains endroits. L'orthodoxie, peut-être, c'est quelque chose dont nous nous rappelons, nous, évangéliques, auxquels nous sommes très attachés, vraiment, à la sainte doctrine. Nous sommes aussi attachés, je pense, à l'orthopathie, c'est-à-dire de rendre un culte à Dieu avec tout notre cœur, que ce ne soit pas juste un culte qui soit formel, mais qui soit authentique, qui vienne du fond de nos tripes, parce que Dieu veut un peuple d'adorateurs. Je pense que le domaine dans nos milieux qui est le moins connu, c'est la pratique du culte. Est-ce que les Écritures nous donnent des règles, des directions sur comment nous devons vivre un culte, nous, ici, au XXIe siècle, en France ? Avons-nous la certitude que ce que nous faisons est bel et bien biblique ? Voilà un petit peu l'enjeu du culte que nous aurons ce soir. Et je crois que nous parlons de ces, comme je l'ai dit, de ces deux cercles, l'orthodoxie et l'orthopraxie, de façon abondante, mais on va mettre l'accent ce soir plus sur le lien entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Et ce que l'on va dire à propos du culte, vous allez le voir, sera tout à fait pertinent et valable pour tout le reste de la vie chrétienne. Mais ce sera aussi ma conclusion, il faut toujours garder en ligne de mire ces trois choses. Croire, se comporter et faire une expérience personnelle qui soit conforme à la parole de Dieu. Alors, c'est parti, nous allons aborder tout cela sous forme de questions. La première, la plus importante pour entamer notre étude, c'est de définir ce qu'est l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Alors, je vais commencer simplement en vous citant les mots essentiels qui permettent de baliser, et après on va voir ce que ça veut dire dans le contexte un petit peu de la théologie biblique. Un des mots les plus utilisés, le mot le plus utilisé, c'est proskuneo, donc se prosterner ou s'agenouiller. C'est ça, adorer. C'est le verbe le plus fréquent, il exprime donc la révérence, le fait que la créature se reconnaît comme créature devant le roi des rois, devant le créateur, et le révère, l'honore, le respecte et le craint. Voilà le premier sens de l'adoration. Quand on adore Dieu, déjà, on baisse la tête et on reconnaît qui il est, et on l'aime pour qui il est, et on le craint pour qui il est. L'autre mot très important, et qui prend une place assez importante, notamment dans les épîtres, c'est latreia, latruo, c'est servir ou rendre un culte. C'est ce mot qui a aussi donné le mot liturgie plus tard. Donc la liturgie, c'est le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est le culte. D'ailleurs, en anglais, vous n'aurez pas le mot culte, vous aurez le mot service. Et finalement, ils sont beaucoup plus proches. Nous allons servir Dieu. Quand l'Église se rassemble pour rendre un culte, elle vient servir Dieu. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, nous le vivons, mais simplement, nous, par rapport à l'Église catholique qui utilisait le mot messe, qui est lié au, au mot métairie, il me semble, si je me souviens bien, je n'ai pas noté, mais qui est le mot qui rappelle la mission de l'Église. L'Église, elle, a pris ce mot-là plutôt, s'est rapprochée plutôt du mot du culte. Un autre, le mot sébo, rendre hommage à, voilà, je le cite, il n'apporte pas énormément quelque chose de plus. Il est utilisé, les apôtres l'utilisent pas mal dans la prédication et sur ce que, dans le livre des Actes. Et puis, sébasma, un objet d'adoration qui est donné. Sachant que ces mots peuvent être utilisés aussi pour parler de la mauvaise adoration. Voilà un petit peu ce qu'est l'adoration, comment elle est définie. Maintenant, on va voir en gros quel est son but, et c'est ça qui va donner beaucoup plus d'épaisseur à simplement du vocabulaire que l'on peut avoir. Et c'est donc la deuxième question, c'est quel est le but de l'adoration ? Cette question va être un petit peu plus longue, mais je vais quand même passer assez vite dessus parce que l'objectif est de faire un survol vitesse grand V de ce que nous disent les Écritures à propos de l'adoration. Mais avant ça, juste quelques petites choses que je pense que les Écritures nous disent. La chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a rien de plus important que l'adoration. Pour l'homme, il n'y a rien de plus important que l'adoration. Tout humain créé a en lui comme une norme le fait qu'il ne peut s'empêcher d'adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre que lui. C'est obligé. Ou il va s'adorer des parties de lui-même, mais il est créé pour être adorateur. Donc tout humain adore quelque chose ou quelqu'un. Et la question la plus importante pour nous, et qui est la question que nous posent les Écritures, c'est adorons-nous la bonne personne de la bonne manière ? Pour qui est notre cœur ? À qui appartient notre cœur ? Voilà une autre façon de poser la question. Et je vous propose donc de faire ce survol-là dans la Bible. Dans la création, Adam a été créé et placé dans le jardin qui avait pour fonction, vous vous souvenez, quand j'avais fait l'étude biblique sur la nouvelle création, où le jardin était en même temps le temple de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Ce jardin avait fonction d'un temple. Dans ce temple-là, eh bien dans ce pays-là, Adam avait ce rôle-là de servir Dieu, et donc son service était aussi cultuel. Il sert en tant qu'adorateur de Dieu, en tant que porteur de l'image de Dieu. Il devait refléter les qualités qu'avait Dieu et donc le glorifier dans tout ce qu'il faisait et donc le révérer, le servir et donc être un adorateur. En théologie systématique, ce qui est intéressant, c'est de montrer le parallèle que l'on a entre Adam, le premier Adam, et le deuxième Adam. Et les théologiens parle d'Adam comme étant le premier roi, donc celui qui avait l'autorité pour transmettre au peuple de Dieu les règles de Dieu. Il était le premier prêtre parce qu'il a été le premier à parler à Dieu et le premier prophète puisqu'il devait transmettre la volonté de Dieu à son peuple. Et il était, en tant que roi, représentant de l'humanité. Et on le voit, on a une trace de ça, c'est que la chute est intervenue non pas au moment où Ève a croqué dans la pomme, c'était déjà bien mal parti, mais c'est quand Adam a mordu dans la pomme que leurs yeux se sont ouverts. Et Dieu est allé voir non pas Ève, mais il est allé voir Adam, parce que Adam était le représentant d'Ève et était appelé à être le représentant des humains devant Dieu. Il était le seul être humain vivant quand Dieu lui a donné tous les commandements liés au mandat culturel et au cadre de la relation dans la création. Et finalement, Adam a failli dans toute son activité pour Dieu, et il s'est détourné de Dieu, et les conséquences de la chute, c'est que l'idolâtrie, donc le culte qui est voué à autre que Dieu, devient irréversible dans le cœur de l'homme. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais là, on se concentre là-dessus. L'homme veut mettre autre chose à la place de Dieu dans son cœur, que ce soit son indépendance, son autonomie, que ce soit un autre, que ce soit un Dieu qui va plus lui correspondre, que ce soit, etc., etc. Et l'idole n'est pas juste une statuette, hein, bien sûr, et il ne faut pas croire que les païens de l'époque pensaient que la statuette était en elle-même magique, c'était des représentations pour eux de divinité, mais qui étaient faites à leur image. Hein. L'idole est la chose ou personne que l'on aime, qui définit notre identité, à qui l'on fait confiance et à laquelle on obéit. Et c'est Jean Calvin, le réformateur, qui parlait du cœur comme étant une machine à idole. Le cœur de l'homme, c'est cette machine à idole qui, puisqu'il s'est détourné, qu'il a fui loin de Dieu, trouve des substituts à Dieu, mais qui ne pourront jamais le satisfaire. Et le but de Dieu et le plan de la rédemption est de réorienter le cœur de l'homme vers lui, n'est-ce pas ? Et c'est ce que nous voyons après dans l'étape, grande étape de théologie biblique suivante, après la chute, c'est le projet de rédemption de Dieu qui commence dès la chute, dès Genèse 3.15, où Dieu a pour but de se racheter un peuple d'adorateurs. Et c'est fou quand on voit, par exemple, simplement le texte en Exode, chapitre 3, verset 18, quand Dieu demande à Moïse d'aller parler à son peuple pour qu'il le libère, il lui dit, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. C'est la première chose que Dieu veut, c'est libérer son peuple, pas pour qu'il soit simplement sans lui, mais pour qu'il puisse vivre ce à quoi il est destiné, c'est être en communion avec Dieu et rendre un culte à Dieu. C'est le premier objectif que Dieu s'est fixé. Et donc Dieu lui-même donc, est à cette initiative-là de la rédemption. Dieu est à l'initiative aussi d'un système où il va instaurer des sacrifices et le temple pour qu'il puisse s'approcher de lui. Et ces sacrifices-là vont être des symboles, des préparations, des types, une pédagogie pour le conduire à réaliser que par lui-même, l'homme ne peut pas régler son problème d'idolâtrie. Il a besoin que Dieu lui-même vienne et règle le problème. Et aucun des sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvait régler ce problème-là. Ils étaient une pédagogie que Dieu avait donnée par rapport à la substitution pénale, donc au fait qu'il faut qu'il y ait un substitut à la condamnation et au besoin d'être purifié. Et le temple avait cette vocation-là, alors qu'avant il y avait ce jardin qui était un temple et qui devait grandir dans toute la création et remplir la présence de Dieu dans tout le monde au travers de l'activité humaine. À la place de ça, l'homme a rempli la terre de l'idolâtrie, et par le peuple que Dieu s'est choisi, par le temple qu'il a donné, c'est comme s'il mettait un pont, un premier pont, un premier contact sur lequel il va venir rencontrer son peuple. Mais le peuple doit comprendre qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Et il ne suffisait pas d'être sincère. Le peuple de Dieu ne peut pas s'approcher de Dieu comme il veut, il doit le faire comme Dieu lui dit de le faire. Et ça, c'est une grâce énorme que Dieu accorde à son peuple. Et puis, Dieu, en Jésus, se fait nouvel Adam. Hein, Paul parle de Christ comme étant le nouvel Adam, hein, Romains chapitre 4, pour représenter son peuple devant lui. Il remplit parfaitement son rôle de fils. Il est le véritable Israël. Là où Israël a échoué, lui réussit. Là où Adam a été en échec face au serpent, là où le peuple de Dieu dans le désert a été en échec, Christ, face au serpent, dans le désert, réussit là où personne n'avait pu le faire. Il obéit parfaitement à tous les commandements de Dieu. J'aurais pu dire qu'il rend un culte parfait, il est l'adorateur parfait que Dieu se cherche. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que Dieu ne pouvait pas trouver l'adorateur qui lui convenait dans cette humanité déchue, et envoie son fils lui-même pour qu'il devienne homme et rende à Dieu l'adoration qui lui est due. Et il entraîne à sa suite, dans son cortège, tous ceux qui vont s'unir à lui dans sa mort et sa résurrection, et donc il se crée un nouveau peuple au travers de Jésus-Christ, un nouveau peuple d'adorateurs. Bien sûr, Jésus enseigne qu'il est le véritable temple, il est Dieu au milieu des hommes, qui vient à la rencontre des hommes. À la mort de Christ, le temple et le voile est déchiré, il n'y a plus de séparation, tous les sacrifices de l'ancienne alliance ne sont plus nécessaires. Maintenant, c'est au travers uniquement de Jésus-Christ que l'homme peut s'approcher de Dieu. Et donc le culte de l'Ancien Testament devient caduc. Il y en a un nouveau qui est mis en place, c'est le culte de la Nouvelle Alliance qui se fait au travers de la médiation de Jésus-Christ, et ça va être tout l'objet de la suite de notre étude. Voilà, et donc Dieu prend plaisir en lui. Une fois pour toutes, je l'ai dit, il offre le sacrifice parfait pour purifier son peuple. Je vais très vite là-dessus, parce que le but n'est pas d'aller de partout dans les Écritures, mais d'aller plus spécifiquement sur le Nouveau Testament. L'Église, ensuite, comme je l'ai dit, par son union avec Jésus, dans sa mort et sa résurrection, a la liberté de s'approcher de Dieu et de lui rendre un culte. Et nous avons ce texte merveilleux, je pense qu'il vaut la peine de lire. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Voilà ce qui fonde le culte dans la Nouvelle Alliance. Et donc, l'Église est un peuple d'adorateurs. Nous passons dans l'Ancienne Alliance d'un peuple qui avait un sacerdoce bien particulier, qui était pour une tribu, un sacerdoce personnel pour une tribu, à un sacerdoce qui est universel et donc qui concerne tous les chrétiens. Nous sommes tous des prêtres. Et regardez quand on met en parallèle ces deux textes. Donc dans Exode 19, versets 5 à 6, Dieu dit ceci, alors qu'il a libéré son peuple, avant de lui donner la loi, avant toute la loi mosaïque, etc., voici le dessein de Dieu pour son peuple. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc Dieu parle à Moïse et Moïse devait répéter aux Israélites. Et donc, il y a ce projet que Dieu formule. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, finalement, les Lévites sont là, ils font le travail, mais ce projet-là et cette promesse que Dieu fait à Moïse ne s'accomplit pas. Et voilà comment Pierre, lui, voit ça en s'adressant à une église qui est faite à la fois de juifs et de non-juifs, mais qui sont tous chrétiens. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres. Nous avons tous cet accès à Dieu. Il n'y a pas que les Lévites qui pouvaient avoir un accès à Dieu dans le temple. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons tous accès à Dieu, ce qui fait de nous tous des prêtres. Nous pouvons tous nous adresser à Dieu librement. Nous pouvons lui rendre un culte à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. L'Église, en plus d'être un peuple d'adorateurs, elle devient le temple de Dieu et rend un culte qui est agréable à Dieu par l'Esprit. C'est 1 Corinthiens 6 où Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? » À cause de notre union avec Jésus-Christ, nous sommes également le temple dont il est la pierre angulaire, la pierre principale. Et lors du retour de Jésus, cette église sera glorifiée et vivra dans la nouvelle création qui sera le nouveau temple, le lieu de communion plein et entier définitif avec Dieu, et nous vivrons en pleine communion avec lui à la louange de sa gloire. Voici pour un survol hyper rapide de ce que nous disent les Écritures par rapport à cette notion de culte. Mais je voudrais maintenant m'attacher un peu plus au culte dans la Nouvelle Alliance, en commençant par les évangiles et comment Jésus en parle. Vous vous souvenez probablement de ce récit, de cette discussion entre Jésus et la Samaritaine, où il y avait une dispute entre les Samaritains et les Juifs pour savoir où est-ce qu'il fallait adorer Dieu. Et Jésus répond à cette Samaritaine qu'il viendra un temps bientôt ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Autrement dit, Jésus dit à cette Samaritaine, quand il parle d'être en esprit, il ne parle pas par le Saint-Esprit, mais l'intention là, est, le mot est l'idée est d'adorer avec le bon état d'esprit, avec le bon cœur. Il aurait pu dire en cœur et en vérité, avec le cœur sincère que Dieu veut, donc le cœur que Dieu va créer en nous, et en vérité, c'est-à-dire conformément à la parole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la vérité, et nous le mettrions plutôt vérité égale orthodoxie, croire juste, mais la dispute a lieu sur le lieu, sur la pratique, pas qui est Dieu, mais où est-ce qu'il faut l'adorer. Et donc, en fait, on voit qu'il y a ces trois dimensions là, d'orthodoxie, hein, du faire correctement et d'avoir le cœur au bon endroit qui est important. Autre chose à rappeler, bien sûr, c'est que tous les aspects de la vie ont une dimension cultuelle. Je voudrais relire simplement Romains 12, passage encore très connu, hein, bien entendu, mais que je voudrais relire. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout ce que nous faisons a une dimension spirituelle et culturelle. Quand nous sommes au travail, nous rendons un culte à Dieu parce que nous servons Dieu et nous le servons avec révérence. Quand nous sommes à l'église, c'est la même chose. Quand nous sommes en famille, quand nous sommes dans nos loisirs, quand nous sommes seuls dans notre lit, devant la télé, etc., nous sommes tout le temps en train de rendre un culte, soit à Dieu, soit à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et le culte dominical dans la Nouvelle Alliance et le sabbat chrétien. Voilà, c'est le point suivant. Le culte dominical dans la Nouvelle Alliance et le sabbat chrétien, puisqu'il y a une rupture entre l'Ancienne Alliance, hein, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance c'est la même chose, et le Nouveau Testament. La mort et la résurrection, l'ascension de Jésus et la Pentecôte changent tout. Et il y a un grand débat parmi les chrétiens sur la question du sabbat, je pense que ça ne vous a pas échappé. Comment devons-nous vivre le sabbat? Qu'est-ce que le sabbat chrétien? Je voudrais simplement faire quelques rappels. Le sabbat fait partie de la loi morale de Dieu, des 10 commandements. On est d'accord? C'est bien dans la liste des 10 commandements. Donc, la loi morale de Dieu exprime le caractère de Dieu, la volonté de Dieu. Et elle ne change pas, elle est éternelle. Donc, Dieu veut que son peuple observe le sabbat. Chacun des 10 commandements est toujours obligatoire et chacun d'eux a été approfondi et transformé par Jésus-Christ. Certains aspects du sabbat ont été abolis par l'œuvre de Jésus-Christ. Et si vous regardez de près, quand Jésus s'est disputé avec les pharisiens, il n'a jamais remis en question le sabbat. Il remettait en question leur pratique du sabbat et les règles qu'il rajoutait au sabbat, mais pas le sabbat lui-même. Et Jésus est venu non pas pour abolir la loi de Dieu, mais l'accomplir et donc à redonner le sens du sabbat. Mais il y a certains aspects du sabbat qui ont été totalement abolis à cause de cette transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Le contexte culturel a changé, on n'est plus dans un peuple de Dieu qui est une nation, On est dans un peuple de Dieu qui est parmi tous les peuples, et toute la pédagogie qu'il y avait à propos du sabbat et certaines ordonnances, on voit, ne sont pas reprises après dans le Nouveau Testament. Tout ce qui était voilà, les lois protocolaires, les sanctions judiciaires, on ne retrouve rien dans le Nouveau Testament qui va parler de différentes sanctions si le jour du sabbat pardon, est pas respecté. Pas le jour du tabac, le jour sans tabac peut-être pour certains. Voilà. Et j'aime cette expression que j'ai trouvée. Christ a apporté le sabbat avec lui dans la tombe. Il a apporté le jour du Seigneur avec lui lorsqu'il est sorti du tombeau le matin de la résurrection. Toutes les règles, les lois par lesquelles nous étions condamnés et que nous étions incapables, auxquelles nous étions incapables d'obéir, Christ est mort avec, et puis il est ressuscité et a donné une nouvelle compréhension de ce qui est, enfin une nouvelle compréhension, pas complètement radicale, mais une nouvelle compréhension du sabbat. Et donc, les chrétiens ont commencé à commémorer le jour de la résurrection le dimanche. Jésus est ressuscité le jour d'après, hein, c'est le jour d'après le sabbat, Jésus est ressuscité. Et on voit que le dimanche a commencé à être un jour de rassemblement dans l'Église et un jour où l'Église rend un culte. Prenons simplement quelques textes. Les indices sont vraiment minimes. On en a beaucoup plus dans l'histoire du deuxième siècle de l'Église, l'histoire des pères de l'Église. Mais regardez Actes 20, verset 1. Verset 7. Je vais lire à partir du verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain à Éphèse, etc., prolonge son discours et se met à enseigner. Donc, il y a un jour, il passe une semaine ensemble, il passe plusieurs jours, mais le premier jour de la semaine, donc le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus, il se retrouve, et c'est là qu'il commémore, au travers de la Sainte Cène, le repas du Seigneur. On voit un autre acte qui fait partie du culte, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 16, quand Paul demande aux Corinthiens de se préparer à la collecte. Donc ils ont des mois pour réfléchir à ce qu'ils vont faire pour cette collecte-là. Et Paul leur dit, donc c'est 1 Corinthiens 16, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc là, il y a cette idée, Paul va venir et recueillir les dons, peut-être c'est dans 3 mois, mais il dit, le premier jour de la semaine, c'est ce jour-là où vous mettrez de côté. Alors, il y avait, bien sûr, des payes qui étaient semainières, hebdomadaires. Oui. hebdomadaire. Paul ne dit pas vous faites ça tout d'un coup, c'est à chaque fois le premier jour de cette semaine-là, vous commencez par ça, vous le mettez de côté dans ce but-là. En gros, si je fais la synthèse et je ne veux pas faire trop de développement, ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est que le peuple de Dieu se rassemble non plus le jour du sabbat de l'Ancienne Alliance, mais à cause de la résurrection de Jésus, voit le jour de la résurrection de Jésus, de la semaine, le dimanche, comme étant le premier jour, le jour d'une recréation, d'une nouvelle semaine, du renouveau en Jésus-Christ. Et donc se rassemble le jour du Seigneur en communauté pour rendre un culte à Dieu, etc. Et ce que nous retrouvons, si on faisait l'enseignement, je pense que ce sont ces 3 événements. C'est un jour de rassemblement pour l'adoration communautaire, le sabbat chrétien. C'est un jour où on se repose de notre travail. Quand Dieu a donné le sabbat, c'était pour que le peuple de Dieu lui ressemble. D'accord ? Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Quand il s'est reposé, ce n'est pas qu'il était fatigué, qu'il n'avait plus de puissance, mais qu'il s'est posé, il a triomphé du chaos et il contemple ses œuvres et appelle le peuple de Dieu à le contempler comme lui, il se contemple. Nous servons tous Dieu tout le temps, mais il y a un moment donné où il y a une rupture dans notre semaine, où nous sommes plus dispersés, mais nous nous rassemblons et nous rendons un culte à Dieu. C'est le jour de la résurrection de Jésus. Un jour qui nous rappelle à trouver notre repos spirituel en Christ chaque jour de la semaine. Le sabbat chrétien, ultimement, est accompli par Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous parle comment, au travers de Christ, le peuple de Dieu rentre dans le repos qu'il a tant cherché, dont il avait besoin. Et le sabbat est un symbole, un type, une pédagogie pour nous dire c'est de ce repos-là permanent, éternel, dont on a besoin. Et nous le vivons tout le temps. Mais quand nous nous rassemblons le dimanche, nous nous tournons nos yeux ensemble vers Jésus-Christ et ça participe comme une pédagogie, comme la Sainte Cène nous le rappelle également, que nous avons notre plein repos en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes réconciliés. Bien sûr, toutes les lois ultra strictes que l'on voit dans l'Ancien Testament par rapport au travail, par rapport au nombre de pas, certains chrétiens y obéissent de cette manière-là. Certains chrétiens, j'ai de très très bons frères à moi, chez qui je suis allé plusieurs fois en Angleterre, là-bas, eux, ils ne vont pas passer la tondeuse le dimanche, ils ne vont pas aller au restaurant, ils vont avoir une observation vraiment très conservatrice, on va dire, de la chose. Moi, personnellement, je ne suis pas un sabbatiste et nous ne sommes pas dans l'Église ultra stricte, mais je crois que si on a le choix, choisir de travailler plutôt que de venir à l'Église, c'est se tromper par rapport à la volonté de Dieu. Bien sûr, si on travaille et qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si notre travail a des responsabilités, je prends cet exemple d'un électricien. Si on est électricien et qu'on veut se faire de l'argent en plus en travaillant le dimanche, je pense qu'en tant que chrétien, on manque le but. Par contre, si on est électricien au CHU et qu'on est de garde et qu'on sait qu'on doit travailler parce que s'il y a un problème, eh bien on met la vie de personne en danger, là, on aime notre prochain. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Il ne faut pas inverser les choses. Vous voyez là où je veux en venir ? C'est clair ? Voilà. Et j'aime bien, c'est le titre d'un chapitre d'un livre de Kevin DeYoung sur les 10 commandements. Oui, il introduit le titre de son chapitre sur le sabbat, c'est « Reposez-vous, réjouissez-vous, répétez ». Encore et encore, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, semaine à semaine, de trouver notre repos en lui, et c'est une pédagogie aussi pour nous, pour la communion fraternelle, pour l'adoration de Dieu et le repos. Alors, le culte dans la Nouvelle Alliance. Oula ! Attendez, mais j'ai un bug dans ma... Voilà. Je conclue avec cette définition qui est une des plus belles, je pense, et des plus complètes que j'ai pu lire. Donc, Gibson dit « Le culte est la réponse juste, appropriée et agréable des êtres moraux, angéliques et humains, parce que les anges aussi sont des adorateurs, à Dieu le Créateur, Rédempteur, et consommateur. Alors, consommateur, ce n'est pas comme nous, les consommateurs dans les supermarchés. C'est le consommateur, c'est celui pour qui tout est fait et qui est au bénéfice de tout ce qui est fait. Pour qui il est, un Dieu éternel en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour ce qu'il a fait dans la création et la rédemption, et pour ce qu'il fera dans la consommation à venir. Lui qui est toute louange et toute gloire, maintenant et pour toujours, dans un monde sans fin. Voici ce qu'est l'adoration. Des questions jusqu'ici ? Oui ? Alors, passons à la question suivante. Vous aurez le PowerPoint avec tout, comme d'habitude, ce sera sur le site. Question suivante, quel est le but du culte ? Alors, j'ai déjà donné énormément de pistes, hein, bien entendu. Mais c'est un débat parfois qui fait beaucoup de disputes, dans le sens, est-ce que le culte, il est strictement pour Dieu ? Est-ce que des non-chrétiens peuvent avoir leur place dans le culte ? Est-ce que le culte ne devrait pas être pour les non-chrétiens, afin de leur permettre de connaître Dieu. Voilà, il y a plein de débats qui se font comme ça, et c'est ce que je découvre au travers de mes études en ce moment aussi, c'est que c'est loin d'y avoir un consensus. Et selon comment on comprend la chose, c'est différent. Le but du culte, c'est de rencontrer Dieu, se réjouir en lui et lui offrir ce qui lui plaît. Voici comment nous le comprenons. Le culte est donc pour Dieu. Dans le culte, Dieu veut rencontrer son peuple pour qu'il l'adore et l'écoute lui parler, pour qu'il se rappelle de la nouvelle alliance et qu'il soit envoyé, renouvelé et restauré par l'Esprit afin de servir Jésus-Christ dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que le culte est une rencontre. Souvent, nous disons, à juste titre, que nous rendons un culte à Dieu. C'est important de ne pas venir passif, nous rendons un culte à Dieu. C'est vrai quand nous disons ça, mais quand nous disons simplement ça, nous ne disons pas mieux que les païens. Parce que les païens rendent un culte à Dieu avec ferveur, ils multiplient les vaines paroles, mais en vain. Il y en a qui sont prêts à offrir des sacrifices énormes à Dieu, ils veulent rendre un culte à Dieu, mais ils rendent un culte à un Dieu qui n'existe pas, qui est une idole. Et nous ne rendons que ce que Dieu nous donne de pouvoir lui rendre par le Saint-Esprit. Et le culte, si nous rendons un culte à Dieu, c'est avant tout parce que Dieu a été à l'initiative de venir nous rencontrer, de faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Et le temps de culte est un temps de communion avec Dieu. Le but de Dieu durant cette rencontre est la communion entre le Rédempteur et son peuple racheté qui cherche à contempler Dieu comme lui-même se contemple. Dieu nous fait participer à son activité d'éternel repos en rentrant dans sa présence en tant que communauté. Et l'Église est sauvée pour être un peuple d'adorateurs qui célèbre la gloire de sa grâce. Et donc, notre culte doit être à la hauteur de notre reconnaissance et désireux d'offrir à Dieu ce qui lui plaît. Si quelqu'un vous passe le sel à table, vous allez lui dire merci. Ça suffit. Mais si quelqu'un vous sauve la vie, vous n'allez pas juste lui dire merci comme ça. Votre reconnaissance va être à la hauteur de ce qu'il a accompli pour vous. Et c'est ça le culte que nous rendons à Dieu. C'est avant tout une reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et en retour, nous lui exprimons notre adoration, notre reconnaissance, notre joie, notre peine sur notre péché, etc., etc. Et nous désirons lui offrir ce qui lui plaît, ce qui sied à sa personne, dit autrement. Je continue. L'autre facette du culte, c'est qu'il est un moyen de grâce. J'avais longuement parlé du moyen de grâce, de ce que sont les moyens de grâce, dans une étude biblique sur la Sainte Cène que nous avions fait, mais je vais faire encore quelques petits rappels. Les Écritures nous le montrent, et une expérience nous montre que notre foi n'est jamais parfaite avant d'être glorifiée. Nous serons un jour glorifiés, nous serons dans sa présence, et Dieu a fourni, en attendant, ici-bas, des moyens par lesquels nous pouvons régulièrement fortifier notre foi en ses promesses. Donc, les moyens de grâce sont des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour fortifier notre foi. Il utilise ces moyens comme des canaux pour communiquer sa grâce et la faire déverser sur son peuple. Ces canaux sont le culte en lui-même. Le culte est un moyen de grâce en lui-même, où Dieu vient répandre sa grâce sur nous. Et je trouve terrible quand il y a des frères et sœurs qui vont dire « Ah, je ne veux pas aller au culte parce que je ne me sens pas digne devant Dieu » ou « D'abord, j'ai besoin de régler des choses » ou « Comme s'il fallait d'abord se présenter en ayant tout réglé pour être devant Dieu. » Mais se priver du culte, c'est se priver de ce moyen de grâce. Dieu veut déverser sa présence, nous rappeler ses promesses, les vérités, parler à notre cœur, discerner au plus profond de nous. Et les éléments du culte, la parole de Dieu, la prédication, la Sainte Cène, le baptême, sont des moyens de grâce que Dieu utilise. Par sa parole, Dieu déverse sa grâce dans nos vies. Il nous renouvelle, il nous rafraîchit. Par la prédication, il nous nourrit, il nous édifie. Par la Sainte Cène et le baptême, il fortifie aussi au travers de l'obéissance et de la persévérance dans l'utilisation de ces symboles, j'y reviendrai, il fortifie la foi de son Église. Et aussi, la Bible parle d'un autre moyen de grâce qu'on oublie souvent, c'est la discipline de l'Église. Quand la communauté va voir un frère ou une sœur, d'abord un frère, bien sûr, avec toutes les étapes que l'on a dans la discipline, mais quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Écoute, là, il faut que tu te reprennes, ça ne va pas, tu ne peux pas continuer comme ça », Dieu est en train de vous faire grâce parce qu'il essaye de vous réveiller et il vous dit « Reviens à moi, remets de l'ordre dans ta vie ». Et dans le but ultime, quand ça va vraiment loin, quand l'Église doit pratiquer la discipline et exclure un membre de la communauté, eh bien, c'est un moyen que Dieu utilise, on ne va pas prendre le tout le développement, on en a parlé récemment, mais que Dieu utilise pour confronter cette personne afin de faire un électrochoc et de la sauver et de ne pas lui permettre de vivre dans le péché et d'en être satisfait. Parce que ça jette l'opprobre sur l'honneur de Christ, ça jette l'opprobre sur l'Église et surtout cette personne doit prendre conscience qu'elle a besoin de se repentir. Et donc, comme un père discipline ses enfants, la discipline de l'Église qui discipline les membres fait partie de ce moyen de grâce pour ramener toujours la personne, c'est le but, de toujours ramener la personne, de la gagner à la cause de Jésus-Christ. Il y a d'autres moyens de grâce. Pareil, il y a des débats entre les théologiens, mais moi j'en inclus volontiers d'autres, qui sont des moyens de grâce, mais en même temps des fruits de la grâce dans notre vie. Je vais m'expliquer. Le service est un moyen de grâce. C'est le fruit de la grâce, c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous avons des dons, que nous pouvons servir Dieu. Mais je suis convaincu que servir Dieu, penser donc plus à mon prochain, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, et à Dieu plutôt qu'à moi, est un moyen de grâce que Dieu va utiliser pour me décentrer de moi-même. La communion fraternelle, l'évangélisation est aussi un moyen de grâce qui fortifie la foi de l'Église, tout comme elle est un fruit de la grâce de l'Esprit qui agit en nous et qui donne les capacités d'évangéliser. Enfin bref. Pour qui est le culte? Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point? Non? Oui? Oula, je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Ça serait beaucoup trop long. Mais en trois mots, quand malgré tout ce qui a été fait pour gagner cette personne, il n'y a aucune repentance dans deux grands domaines. C'est soit d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que le comportement, la vie de la personne manifeste qu'elle est pour son péché et qu'elle n'est pas pour Christ et on ne voit pas l'œuvre de l'Esprit en elle, ou pour l'autre penchant, c'est pour l'hérésie des personnes qui vont rejeter les fondamentaux. Si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'existe pas, au bout d'un moment, tu vas essayer de lui expliquer encore et encore, de lui dire qu'elle passe peut-être par une crise. S'il n'y a pas de repentance au bout d'un certain moment, bah, tu es obligé d'agir. Une autre question? On reste pour des questions de compréhension pour le moment, si vous voulez bien.
Quand tu as parlé de rendre un culte à Dieu, en fait, je me pose la question si l'Église, on peut le faire. Et si, parce que, est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui satisfait le Père et à travers son ministère de prophète, prêtre et roi? Mm-hmm. Est-ce que nous, on peut vraiment rendre un culte à Dieu?
Je vais répondre à ça.
D'accord.
Oui. On a ça. On continue? Oui. Pour qui est le culte? Ne vous fiez pas, j'ai oublié, je me suis emmêlé dans la hauteur de la... Voilà, mais la question c'est pour qui est le culte? On est toujours là-dedans. Le culte est une idée de Dieu, hein, c'est Dieu qui s'abaisse à nous pour que nous le rencontrions. Et c'est ce qu'on appelle l'accommodation de Dieu. Dieu s'abaisse, vient vers nous pour que nous puissions le rencontrer. Et ultimement, il l'a fait en Jésus-Christ. Bien sûr. Le culte est pour Dieu, il concerne donc l'Église prioritairement. Quand on est à un culte, quand on assiste à un culte dominical, on est dans une rencontre qui concerne le peuple de Dieu et Dieu, prioritairement. C'est l'Église qui rend le peuple qui rend un culte à son roi. On le voit dans les Écritures, c'est un événement où les non-chrétiens peuvent être présents. On le voit par exemple en 1 Corinthiens 14, vous savez, toute la question de l'ordre dans l'Église, de l'usage du parler en langue que faisaient les Corinthiens. Paul dit, je cite, verset 23, « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Donc ce n'est pas quelque chose qui est un vase clos. Je précise parce que certains courants du christianisme ne veulent pas de présence de non-chrétiens parmi eux durant le culte, ou ne veulent pas même de chrétiens d'autres églises parmi eux pendant le culte. Mais non, on voit que c'est quelque chose, pour Paul, c'est normal, quoi. Il dit qu'il y a des gens qui vont rentrer, c'est normal. On le voit dans le livre des Actes également, c'est quelque chose où les portes sont ouvertes, le culte est public, et donc il doit attirer notamment aussi des non-chrétiens. D'accord ? Mais si le culte concerne, et je pense que c'est même un signe de bonne santé, si des non-chrétiens sont présents à nos cultes, c'est que on ne crée pas de barrières inutiles pour ces personnes-là, l'Évangile étant la seule barrière qui doit les confronter, enfin la seule barrière, le seul élément quoi, qui les confronte. Cette phrase de John Piper résume pour moi simplement la place des non-chrétiens dans le culte. La mission est là où l'adoration n'est pas. C'est de connecter la mission à l'adoration. Dieu veut et Dieu exige que tous les hommes soient ses adorateurs. C'est sa volonté morale. Nous devons tous l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. N'importe qui sur terre. Et la mission est le fait que l'Église va et va faire des disciples et va amener ces personnes à devenir des adorateurs de Dieu. Et donc notre culte est un moyen de grâce aussi, par lequel, donc un canal par lequel Dieu va faire déverser sa grâce pour que les non-chrétiens puissent devenir chrétiens. C'est combien se sont convertis en assistant d'abord à 1, puis 2, puis 3, puis 4 cultes, et en n'ayant pas simplement les cultes, mais expérimenté toute la réalité de la vie d'Église, où ils sont confrontés par la réalité de la présence de Dieu qui est là, par le Saint-Esprit. Ils constatent les chants, la ferveur, ils entendent l'enseignement de la parole de Dieu et toutes ces choses-là. Et donc Dieu utilise ça pour les amener. Et donc, nous devons rendre le culte compréhensible, car Dieu l'utilise comme un moyen de révélation. Parce que notre culte est fondé sur Christ, il embrasse sa passion pour ceux qui sont perdus. Et nous devrions nous adresser à eux régulièrement, et nous le faisons régulièrement, que ce soit au travers de la prédication, par rapport aux différentes annonces qu'on peut faire, où on leur dit, nous vous tendons la main, nous sommes là pour vous accompagner et découvrir qui est Dieu. Mais c'est un effort, ça, de vulgarisation qui doit être fait par le prédicateur, par le président, mais je pense aussi par toute l'Église. Quand nous avons des discussions avec les personnes, dans nos prières, dans la façon de nous exprimer, d'éviter un patois de Canaan qui soit trop hermétique pour les personnes et qui les empêcherait de comprendre. Mais quand on prie avec notre cœur, quand on chante avec notre cœur, eh bien les gens voient et se souviennent des paroles et de tout ça et sont touchés. Des questions là-dessus ? Bien. Alors, comment Dieu veut-il que l'Église lui rende un culte ? C'est un petit peu le cœur de notre sujet ce soir. Plusieurs questions pour entamer la discussion. Le plus important, c'est d'être sincère et authentique. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Donc si je suis sincère et authentique, si je donne vraiment tout mon amour à Dieu, peu importe le reste. Autre question, peut-on s'approcher de Dieu comme on le veut ? Ou, au nom de Jésus-Christ, pouvons-nous nous approcher de Dieu comme nous le voulons ? Question suivante, peut-on faire des choses dont la Bible ne parle pas durant le culte ? Peut-on utiliser notre inventivité, notre imagination pour créer des éléments en disant bah, « Tiens, ça, ça peut plaire à Dieu dans le culte, c'est un bon moyen d'adorer Dieu, faisons ça. » Est-on obligé de faire ce que la Bible nous demande ? Bon, ça c'est une question un peu obvious, comme on pourrait dire, évidente. Bien sûr, on est obligé de faire ce que la Bible nous demande, mais quand même. Alors, je vais vous poser maintenant, je vais formuler les choses différemment pour vous montrer comment le culte peut être compris. Qui dit ça ? Ce qui n'est pas demandé par la Bible devrait l'être. Pardon ? C'est pas clair ? Demandé par la Bible, oui. Ce qui n'est pas demandé par la Bible, ou pourrait l'être. Bref, ouais, non, c'est un peu... Ça, ouais, d'accord, okay, pour moi, ça marchait bien, mais pour vous, ça ne marche pas. C'est le libéralisme dont je voulais parler. En gros, la Bible ne demande pas tout, elle demande mal, et si elle ne demande pas ça, ben, elle devrait le faire, la Bible se trompe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou la Bible se trompe dans ce qu'elle nous demande. Enfin, voilà. Ouais. Ça va être mieux pour les prochaines... Si quelque chose n'est pas cité, mais ne semble pas interdit par la Bible, l'Église peut le faire. Par exemple, la danse, faire des scénettes, vous savez, voilà, ou passer une vidéo qui va expliquer quelque chose à la place de la prédication, par exemple, ou une performance artistique. J'ai entendu parler d'une église à Paris qui disait, voilà, on est dans une époque visuelle, les gens ont du mal maintenant avec l'audio à rester concentrés. Et en fait, au lieu de prêcher, on va contempler un tableau de maître, par exemple de Paul sur la route de Damas. La Bible n'en parle pas, est-ce que c'est mal de le faire ? Voilà. Une idée, dans quel milieu on peut retrouver ça ? Alors, oui, c'est vrai, on peut le retrouver dans l'Église émergente, avec une petite nuance dans l'Église émergente, où c'est un pragmatisme qui est très fort, mais on trouve ça très fort, en fait, dans le courant, initialement, dans le luthérianisme. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe normatif. Il y a des normes, mais si on ne transgresse pas les normes, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle aussi l'adiaphora. Vous savez, l'adiaphora, c'est ce dont Paul parle quand il parle de la liberté chrétienne. C'est, voilà, si tu es libre de manger une viande sacrifiée aux idoles, du moment que ce n'est pas une occasion de chute pour Dieu. Mais est-ce que pour le culte, c'est quelque chose qui marche ? Troisième, ce qui n'est pas demandé par la Bible peut l'être par l'Église. Moi, je trouve ça clair. De qui ça vient ? Non, vous ne voyez pas ? Les catholiques, tout à fait. Parce que le catholicisme, l'Église a l'autorité pour compléter des choses du culte et ajouter la tradition vient comme un deuxième étayage à la foi catholique. Et dernière, tout ce que l'on fait dans le culte doit être une obéissance à un commandement. C'est la réforme qui se retrouve beaucoup chez les églises baptistes aujourd'hui, et c'est ce qui donne le principe régulateur. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant un petit peu. Alors, pour reclarifier là où nous sommes, le principe régulateur est quelque chose donc, qui va, cette notion-là, je vais l'expliquer, mais qui se situe dans le dialogue entre l'orthodoxie et l'orthopraxie, entre ce que l'on croit et la façon dont on doit se comporter. Et le principe régulateur nous dit l'un est régulé par l'autre, c'est-à-dire que la façon dont on doit se comporter est régulée par ce que l'on croit, par ce que dit la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. C'est valable pour le culte, mais c'est valable pour toute la vie chrétienne, finalement. Mais là, on va voir comment est-ce qu'il s'applique en particulier au culte. C'est quelque chose dont on parle très peu. On en parle beaucoup dans la théologie réformée. Je ne parle pas des églises réformées luthériennes. Je parle vraiment de la théologie qui est le fruit de la réforme. la théologie qui justement disait au lieu que l'Église puisse dire ce que la Bible ne commande pas, l'Église peut le dire. La réforme a dit non, on n'obéit qu'à la Bible et on ne fait que ce que la Bible nous dit de faire. Parce que c'est ce que la Bible attend de nous, tout simplement. Et donc je vais développer un petit peu maintenant et le préciser. Donc comme je vous le disais, il a été démontré et défendu par les réformateurs historiquement, il remonte là, on le retrouve, vraiment c'était quelque chose de transversal, hein, de John Knox à Luther, Calvin, etc., tous en parlent et on le retrouve de façon très forte dans les confessions de foi. Là je voudrais simplement vous citer d'abord Jean Calvin, qui dit ceci, « Dieu a voulu empêcher que les hommes ne se laissent aller à certaines pratiques mauvaises et vicieuses. Si nous désirons n'avoir qu'un seul Dieu, souvenons-nous qu'il ne faut en rien réduire sa gloire, mais bien plutôt veiller à la préserver de toute atteinte. Il a exposé dans sa loi ce qui est bon et droit, et par ce moyen a fixé des normes, hein, bon et droit, orthodoxie, a fixé des normes, orthopraxie, pour les hommes, afin que chacun ne prenne pas la liberté de faire ce qui lui semblera bon. » Vous vous souvenez, si on prend à l'époque des juges, chacun, en ce temps-là, faisait ce qui lui semblait bon. Il fait, je pense, une allusion à ça également. D'accord ? Donc, Dieu nous dit ce que nous devons croire et a posé des normes afin de nous conduire dans notre façon de vivre et de l'adorer. Et à l'époque des réformateurs, il y avait tout ce débat avec c'était les iconoclastes, hein, qui cassaient les icônes, etc., toutes les statuettes dans l'Église catholique. C'était un vrai enjeu à leur époque. Le principe régulateur, une autre citation, celle de la confession de foi de Westminster, qui est on va dire la confession de foi la plus aboutie de la réforme, qui dit ceci, je trouve ça très beau, « Le vrai Dieu lui-même a ordonné et fixé par sa propre volonté la façon de lui rendre un culte, de telle sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les désirs des hommes ou selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit ou de quelque autre manière que ce soit non prescrite dans les Saintes Écritures. Donc nous devons adorer Dieu en obéissant strictement à ce que nous disent les Écritures et ne rien ajouter, ne rien enlever. Hébreux 12, versets 28-29, c'est pourquoi, je pense c'est évident, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, comment ? En rendant un culte qui lui soit agréable. Donc c'est Dieu qui doit dire si c'est agréable ou pas. C'est Dieu qui définit ce qui lui est agréable ou pas. Avec piété, là c'est l'attitude de cœur qui va avec. Et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On n'est pas dans l'Ancien Testament, hein, on est dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas parce qu'il y a Christ et le sacrifice de Christ que nous pouvons rendre un culte comme bon nous semble et que nous ne devons pas craindre Dieu. Non, Dieu est le même, il demeure éternellement, et au contraire, nous avons compris qui il est, et nous devons d'autant plus chercher à le craindre. Voici comment je le résume de façon toute simple. Le culte doit être composé des éléments que nous pouvons montrer comme étant appropriés à partir du Nouveau Testament. Dit autrement, il faut que nous nous disions cela, adorons Dieu comme il veut être adoré. Ça vous va ? Si vous offrez, si vous travaillez pour votre patron avec tout votre cœur, que vous faites le bon travail, mais que vous ne lui donnez pas un produit qu'il vous a demandé, qui est conforme à ce qu'il vous a demandé, même si vous étiez sincère, il vous dira « erreur, c'est pas ce que je demande ». Je t'ai demandé autre chose. Donc, ton cœur était bien, c'est cool, mais ça ne me plaît pas. Ton cahier des charges, c'est celui-là. Si vous offrez à votre femme des chocolats, mais qu'elle ne les aime pas, vous faites plaisir à vous, mais vous ne lui faites pas plaisir à elle. Si vous l'aimez vraiment, vous voudrez lui offrir quelque chose qui lui plaît. Voilà, on peut multiplier les exemples comme celui-là. Donc, je complète la définition. Tout ce qui n'est pas demandé par Dieu dans la nouvelle alliance est exclu. C'est-à-dire que danse, exclu, le chaos exclu, hein, le bazar dans l'église pendant le culte où ça part dans tous les sens, sénète exclu, parler en langue exclu, 1 Corinthiens 14, bannière exclu, peinture exclue, vidéo exclue, etc., etc. Enfin, vous pouvez rajouter, en gros, tout ce qui n'est pas présent dans le Nouveau Testament est exclu. Alors, il y a cette question de la danse qui revient pas mal. C'est un truc qui est un petit peu à la mode. Il y a des périodes comme ça où il y a des modes. Et ceux qui vont vous parler de la danse, ils vont vous dire, attends, prends avec moi, alors prenez avec moi, psaume 149, verset 3. Parce que souvent, on cite la danse, on dit, ouais, regardez, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, qu'ils ont traversé la mer morte, une fois que la mer a recouvert les Égyptiens qui sont tous noyés, ils ont dansé. Là, tu peux te dire, ouais, bon, c'est pas le cadre du culte, quoi. Ils ont été délivrés de 400 ans d'esclavage, ils voient les mecs, leurs ennemis se faire défoncer, ils font la fête, ils sont comme des fous. Mais regardez le psaume 149, verset 3. « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. » Nous voyons bien une danse qui est là pour adorer Dieu. Il y a la louange, il y a le chant, mais la danse fait partie et le peuple adorait Dieu avec, en gros, tout son être, quoi. Alors, que faisons-nous d'un texte comme celui-là ? Parce que je viens de dire avant que je ne pense qu'il n'y a pas la danse dans la Nouvelle Alliance. Alors, justement, il faut tenir compte du contexte du plan de la rédemption. Là, nous sommes dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Entre l'Ancienne Alliance, après il y a eu un changement d'alliance, hein, nous sommes passés dans la Nouvelle Alliance suite à la Pentecôte, et donc un changement de culte et de façon d'administrer le culte, de vivre le culte. On peut prendre Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Et je saute le développement des sacrifices jusqu'au verset 11, la conclusion. Verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le culte n'est pas le même. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir des sacrifices constamment. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice à offrir, puisque Christ lui-même est le sacrifice parfait. Et donc, le culte lui-même, dans sa nature, dans ce qu'il était, a changé. Il y a une discontinuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et pour ça, il faut comprendre comment on comprend la loi de Dieu. Elle est divisée en trois parties, elle recouvre trois choses différentes. Il y a la loi morale, je l'ai dit, elle est éternelle, elle ne change pas. Mais il y a dans l'Ancien Testament, une loi civile qui n'a plus nécessité depuis la Pentecôte, depuis la résurrection de Jésus, ça n'a plus de sens. Cette loi-là civile était là pour administrer le peuple-nation de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a plus ça, puisque le peuple de Dieu n'est plus lié à un territoire. Il est lié uniquement à Christ, il n'est plus national, c'est une multinationale qui recouvre toutes les nations et qui vivent chacune dans leur pays. Et donc, obéir aux lois civiles de l'Ancienne Alliance n'a plus de sens. Et on ne retrouve aucun commandement du Nouveau Testament qui nous le demande. Et pareil, pour les lois cultuelles, elles sont accomplies en Jésus-Christ. Là aussi, il y a une discontinuité. Le culte n'est pas le même dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouveau. Et donc, nous devons regarder les textes de l'Ancien Testament, et c'est valable pour le culte, mais pour tout le reste, en gros, pour devons-nous observer ou pas cette loi de Dieu, au travers du regard du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui nous dit comment nous devons lire l'Ancien Testament. Et donc, nous devons filtrer, nous devons filtrer l'adoration pratiquée dans l'Ancien Testament à travers l'œuvre du Christ, afin de vérifier sa pertinence. Encore un exemple, les lois lévitiques alimentaires. Je ne suis plus obligé, j'ai le droit de manger des fruits, on a le droit de manger du porc, on voit que les apôtres ont renversé tout ça. Mais la pédagogie était là pour dire que le peuple de Dieu doit être un peuple qui est saint. Ça oui, on doit s'en souvenir qu'on est un peuple qui est saint. Mais ces lois-là sont caduques. D'accord ? Et donc Jésus et les apôtres nous aident à comprendre ce qui est bon dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, c'est Jésus ou les apôtres qui nous enseignent comment nous devons adorer jusqu'au retour de Jésus. Et nous devons interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Je prends un exemple. Faut-il chanter ? On voit ce texte de Hébreu, du psaume 139, qui nous parle du chant, dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'il y a une place pour le chant ? Oui, on est d'accord, hein ? Il y a vraiment une grande place pour le chant. Donc on peut se dire, bah, ce commandement de l'Ancien Testament, eh bien, il est pertinent pour nous. D'accord ? Autre question ? Faut-il nous armer pour aller renverser les peuples et les dirigeants de toute l'Europe ? Oui ou non ? Est-ce que ça fait partie du culte du Nouveau Testament ? Non ? Regardez, on prend le psaume 149 encore, verset 3. D'accord ? Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il glorifie les malheureux et en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Bon, jusque-là, c'est cool. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Donc si on dit qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, oui, nous pouvons danser. Mais oui, nous devons nous armer et aller zigouiller des peuples entiers. Non, non, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Certains pensent qu'il faut le faire. Ils sont dangereux. Il ne faut pas le faire parce que nous sommes plus dans la même étape du plan de la rédemption. Dieu avait une relation avec son peuple. Il avait des exigences vis-à-vis de son peuple pendant que c'était Israël dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est fini, c'est plus pareil. Nous ne sommes plus un peuple guerrier, nous sommes un peuple qui va évangéliser, qui a une autre mission que celui de faire la guerre à ceux qui viendraient être contre Dieu. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette distinction-là. Si on ne la fait pas, il faut prendre tout ce que l'Ancien Testament nous dit sur le culte et donc l'appliquer aussi dans le Nouveau. Et donc commettre encore des sacrifices. Donc ça rentre en pleine contradiction. Donc je crois que ce texte-là ne peut pas être utilisé pour dire ben, « nous pouvons danser ». L'adoration se fait par le corps. Non, dans le Nouveau Testament, on le voit vraiment, c'est la parole qui porte l'adoration et la parole seule. Question ? Oui.
Qu'est-ce que tu mets derrière le mot danse ?
Tu me demandes ça à moi. Si j'ai dansé 3 secondes dans ma vie, ça... la danse, c'est la danse, mais tu me poses une question. La danse, c'est bouger en rythme à la musique.
Je pose ça parce que tu vois le... Enfin, culturellement parlant...
Je vais en parler.
Oh, ok.
Je vais en parler, t'inquiète pas.
Ok.
Oui, je vais répondre pleinement à ta question. Tout à fait. Là, je parle de danse de louange. C'est-à-dire, par exemple, par les gestes que tu fais, tu exprimes ton adoration.
Ok, merci de préciser, c'est bon.
Mais je vais encore le préciser. Alors, le principe régulateur protège et libère l'Église. Souvent, on voit ça comme quelque chose qui est là, qui vient mettre tout dans une boîte, mais je crois que c'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous donne. Pourquoi ? Parce qu'il protège d'offrir à Dieu quelque chose qu'il n'agrée pas. Si on se contente d'offrir à Dieu ce que nous prescrit la Bible, nous sommes sûrs d'être dans sa volonté. Et vous imaginez, pour un responsable d'église, s'il se retrouve un jour devant Dieu et que Dieu lui dit, tu as dit à ton église et tu as enseigné à ton église de faire ces choses, celle-là et celle-là, mais c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Ton église a offert toute sa vie des boîtes de chocolat à Dieu alors qu'il voulait des fleurs, quoi. Ça nous protège du pragmatisme et du libéralisme pratique. Le pragmatisme, c'est ce qui est bien, c'est ce qui marche. Si ça marche, ça ramène du monde, il faut continuer à le faire. Peu importe si c'est biblique ou pas, ce qui compte, c'est le succès. Et c'est ce que j'appelle, moi, le libéralisme pratique. C'est que certains évangéliques ont une foi orthodoxe, mais ne pensent pas au fait de ce qui... En gros, leur pratique, elle est simplement pragmatique. On fait ce qui fait, on fait ce qui marche ou pas, comme si la Bible ne faisait pas autorité dans notre façon de nous comporter en tant qu'Église et dans les missions qu'a l'Église. Nous devons craindre Dieu et nous avons l'assurance de pouvoir l'adorer comme il lui plaît en observant le principe régulateur. Ça protège également l'Église du show, de partir dans une quête à faire ce qui met en avant plus ou ce qui pourrait glorifier l'homme à la place de glorifier Dieu. Ça libère des préférences et protège du déséquilibre. Vous aurez toujours des personnes qui vous diront « il faudrait que les prédications soient plus longues ». D'autres qui vous diront « il faudrait plus de chants ». D'autres qui vous diront « il faut arrêter de prier, c'est la barbe ». D'autres qui vous diront « moi je voudrais telle chose ou telle chose, etc. » On peut multiplier comme ça les préférences. Et si on se dit « non, on va faire tout ce que Dieu nous demande, et rien que ça, on se met tous d'accord ». On ne sera pas d'accord sur le style, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça nous protège, et ça protège du déséquilibre aussi, d'être une église qui simplement fait des études bibliques de 4 heures et ne va pas chanter, ne va pas adorer Dieu parce qu'elle n'aime pas ça, par exemple, etc. Protège notre conscience, adorer en sachant qu'on ne nous demandera rien d'autre que ce qui peut être démonté comme étant vrai selon la parole de Dieu. Ça, je pense que c'est précieux pour chacun d'entre nous, à ne pas se demander est-ce que je peux le faire ou pas, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas, est-ce que voilà, c'est clair, je sais où je vais, le chemin est balisé, tout ce qui est explicite, tout ce que Dieu demande, tout ce qui est clair, on le fait. Et nous sommes libres de se concentrer sur l'essentiel et qui rend notre adoration possible, pardon, l'évangile de Jésus-Christ. Donc se centrer sur Christ. Donc, l'application du principe régulateur, c'est que, 1, le culte est à la gloire de Dieu. 2, qu'il est ancré dans l'évangile. C'est un moyen de grâce. Je reviendrai dessus. 3, il est communautaire. L'Église édifie et exhorte l'Église aussi au travers du culte. J'y reviendrai. Le culte n'est pas une agglomération d'individualités qui sont chacune dans leur trip perso. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui où vous y allez, il y a la musique qui est à fond, les lumières sont éteintes, il y a des projecteurs, on est dans une salle de spectacle, quoi, c'est le show. Et on vous dit, mais ne pensez pas aux personnes qui sont autour de vous. Vous êtes vous seul avec Dieu, faites comme si vous étiez seul, les autres ne sont pas là. Ce n'est absolument pas le culte de la Nouvelle Alliance, il est intrinsèquement le culte communautaire et communautaire. C'est une communion avec Dieu et avec son peuple. Il est le jour du Seigneur. Il doit se faire dans l'ordre. Ce que l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens en leur disant il faut qu'il y ait de l'ordre parce que Dieu est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Il doit tendre, je l'ai formulé comme ça, à une sobre excellence. Ce que je veux dire par là, une sobre excellence, c'est que comme on le fait pour la gloire de Dieu, nous devons tendre à l'excellence dans tout ce que nous faisons. D'accord ? Et il y a toujours une marge de progression. Mais cette quête d'excellence doit être sobre. Alors, je prends un exemple négatif. Si on se contente d'une médiocrité où on ne cherche pas à améliorer, je ne sais pas, la sonorisation, qu'on ne cherche pas à améliorer notre façon de jouer les instruments, conduire l'adoration par les chants, etc., ça va être laborieux. Et ça empêche le peuple de Dieu de bien se concentrer sur les paroles du chant, sur toute la dynamique de l'adoration, quoi. Et au contraire, si on a on cherche une excellence, mais qu'on veut être se mettre en avant et qu'on ne s'efface pas pour servir l'Église, si tu es un batteur qui veut taper comme un sourd pour montrer combien il bat bien sur la batterie, ou que tu veux faire tous tes solos de guitare, voilà, ce n'est pas le lieu. L'excellence doit être pas là pour distraire l'Église, mais soutenir l'adoration de l'Église, l'enseignement, etc., etc. D'accord ? Dieu n'est pas un dieu de bling-bling, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, biblique, tout dans le culte, les prières, les cantiques, la prédication, doit être biblique. Tout doit être biblique dans le culte. Je vais le développer. Chaque élément du culte doit être évalué en fonction de la révélation des Écritures. Est-ce que nous chantons, disons, entendant ce qui est vrai et qui plaît à Dieu dans notre Église ? Et je vais revenir là-dessus parce que le fait qu'il soit biblique, c'est essentiel. Parce que quand nous rendons un culte à Dieu, les Écritures nous demandent de lire la Bible. On le voit dans le Nouveau Testament, les épîtres, les lettres, la parole de Dieu devait être lue dans l'Église. Et quand nous lisons la Bible, quand la Bible est lue au milieu de l'Église, Dieu parle à l'Église. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on oublie trop, c'est que quand on ouvre la parole de Dieu, qu'on la lit, Dieu est en train de nous parler. Vous vous rendez compte ? Dieu, le Créateur éternel, le Rédempteur, est là en train de nous parler parce que sa parole est vivante. Quand nous lisons la Bible, Dieu est en train de nous parler. Et nous devons lire la Bible parce que Dieu régénère par sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut lire la Bible dans l'Église. Parce que l'Église doit garder les commandements et y obéir. Donc il faut qu'elle les entende ensemble. Parce que nous devons donner une place de choix à la lecture des Écritures, car toute la Bible affirme qu'il y a une priorité de la foi en la parole sur la vue. Nous ne plaçons pas notre foi dans ce que nous voyons, dans des éléments visibles, mais notre foi se nourrit de ce qu'elle entend, et ce qu'elle entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez, vous seriez épatés, nous, les évangéliques, nous disons que nous sommes vraiment centrés sur la Bible, que c'est important pour nous, mais je pense que dans beaucoup d'églises catholiques, on lit plus la Bible dans la messe que dans des églises évangéliques pendant le culte. Il y a un programme liturgique de lecture de la Bible dans l'Église catholique où on lit texte de loi, on lit psaume, on lit évangile, on lit sagesse, on lit épître. Des fois, c'est inversé, des fois, c'est des passages plus longs. La place de la lecture de la Bible est essentielle. Et dans le temps d'adoration libre, de louange libre, nous pouvons prier, mais nous pouvons aussi lire la parole. Quand vous ouvrez la Bible et que vous lisez quelques versets, Dieu parle au travers de votre lecture à l'Église. C'est énorme. Nous prêchons la Bible, c'est-à-dire que l'Église est édifiée par les conducteurs qui enseignent avec autorité pour la faire grandir. Nous prêchons que la Bible, on ne va pas prêcher d'autres choses que la Bible, et toute la Bible doit être prêchée. Là encore une fois, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui fixons le menu en nous disant il y a des textes qui sont utiles pour le peuple de Dieu et d'autres non. Toutes les Écritures sont utiles pour le peuple de Dieu, nous devons donc prêcher toutes les Écritures et n'omettre aucun passage qui pourrait être compliqué à entendre pour l'Église ou qui pourrait être trop à rebrousse-poil ou trop contre-culturel ou qui pourrait choquer. Non, nous devons être fidèles et prêcher toute l'Église. Et c'est pour ça que nous pensons que la prédication textuelle suivie, c'est-à-dire prêcher des livres en entier, d'un livre à l'autre, nous permet d'exposer du coup tout le conseil de Dieu à l'Église. La prédication n'est pas la prophétie, un partage ou une méditation. Elle est un enseignement qui repose sur un texte faisant autorité. Elle expose le texte et donne les applications. Souvent, certains peuvent dire dans certains milieux, là, finalement, la prédication, c'est de la prophétie, parce que c'est là pour encourager l'Église, etc. Dans le Nouveau Testament, la prophétie et la prédication sont deux choses différentes. La prophétie ne se fait pas à partir de textes des Écritures. La prophétie est un acte d'autorité où Dieu parle au travers du prophète. la prédication se fait, non pas, c'est pas une prophétie où il parle de lui-même, moi je pense qu'on devrait faire ça, mais le prédicateur expose les Écritures à l'Église, dit voici ce que dit le texte, s'assure qu'on le comprenne bien, et dit voici comment nous devrions y obéir. Et il enjoint l'Église à le faire. C'est ça la prédication. Et souvent, j'entends, oui, voilà, il va nous offrir un partage ou une méditation ou une pensée sur la Bible, etc. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Les Écritures parlent d'enseignement. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut parler d'enseignement. Je ne sais pas, peut-être ça fait plus sobre ou peut-être plus de dire méditation. Mais non, ce n'est pas la pensée du jour que tu verras sur Twitter avec un verset affiché ou une pensée positive, etc. C'est l'exposition de la parole de Dieu, c'est enseigner les Écritures. Le verbe, c'est enseigner, donc on enseigne. Il faut parler d'enseignement, je pense. Nous prions la Bible. La prière est toujours une réponse du peuple à son Dieu. Elle doit être conforme à sa volonté. Et donc, elle va recouvrir dans le culte l'adoration, la confession, la reconnaissance, l'intercession. Hein, l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est et s'émerveiller de lui. Le contempler, la confession, c'est se rappeler qu'on a besoin de sa grâce. La reconnaissance et l'intercession. La confession est importante parce que on pourrait dire que la confession n'a pas sa place dans le culte, que c'est, et je parle de confession communautaire, je vais parler après de la Sainte Cène, du rôle de la Sainte Cène. Mais quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous le glorifions parce que nous lui disons que nous voyons notre péché comme lui le voit et que nous ne voulons plus le commettre et nous lui demandons sa grâce. Donc Dieu est glorifié quand l'Église se repent de son péché. L'inverse est le contraire. La reconnaissance et l'intercession, voilà. Une place prépondérante, je pense, sur le « nous » plutôt que le « je » dans la prière. Ça rejoint cette dimension communautaire où on doit s'interpeller les uns les autres hein, dans le culte. Je vais revenir là-dessus après. Mais souvent, parfois, les prières, c'est très « moi, Seigneur, tu vois, je, comme si j'étais tout seul ou dans mon culte personnel, etc. » Je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser le « je », ça peut être un jeu à titre d'exemple, où on se met en exemple du besoin de la grâce et ça va édifier les autres. Mais le culte, c'est le « nous », principalement. Et moi, je vous encourage à utiliser le « nous », pour qu'on puisse tous s'unir à la prière par l'amen de la personne. La prière est essentielle parce que l'intelligibilité est essentielle à l'adoration. Pas de parler en langue durant le culte, la prière est une prière comprise par les autres, distincte. Et je vous cite ce que dit Kevin DeYoung sur ce sujet. Il dit « Il sera difficile pour le peuple de Dieu de savoir qu'il doit prier ou de voir qu'il peut prier ou d'apprendre à prier si la prière n'est pas une partie importante de ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons pour le culte. » Est-ce que vous voulez 5 minutes de pause ?